Scarlatti au fil des jours. Les 555 sonates d'un grand maître du clavecin par Philippe Frétigny. Nous allons écouter aujourd'hui la sonate numéro 3 en la mineur presto, tout comme la sonate d'hier. Scarlatti est classé parmi les 5 grands, c'est-à-dire Couperin, Rameau, Bach, Händel et donc Scarlatti. Ce sont les compositeurs majeurs du répertoire pour le clavecin. On pourrait en ajouter bien d'autres. Ces compositeurs sont parfois joués au piano. Il ne s'agit pas ici de lancer des anathèmes, mais ce répertoire est si spécifique au clavecin qu'il est manifeste que certains de ces compositeurs avaient tout particulièrement le timbre de l'instrument en tête dont ils tiraient parti lorsqu'ils composaient, si bien que l'on peut se poser la question de la pertinence des interprétations au piano. C'est tout particulièrement le cas de Scarlatti, dont je dirais que c'est une écriture idiomatique pour le clavecin, tant cette musique est écrite pour le timbre de cet instrument. Le clavecin permet d'exprimer le caractère virtuose de cette écriture. La légèreté du clavier, la largeur réduite de l'octave au clavier par rapport au piano tel que nous le connaissons aujourd'hui, offre d'incomparables atouts pour s'approcher des intentions du compositeur. Vous pourrez vous en faire une idée avec une écoute de la même sonate, tantôt au clavecin, tantôt au piano, et vous entendrez finalement que seul le clavecin permet une fidélité au texte qui rend grâce au plaisir de cette musique. En ce qui concerne le choix de l'interprétation, celle de Scott Ross, il s'agit d'un choix subjectif, je le reconnais. Il fut le premier à se lancer dans cette gigantesque entreprise. Depuis, d'autres l'ont imité. Ma prédilection pour cette version s'explique par les qualités de claveciniste hors du commun de Scott Ross, comme une exceptionnelle virtuosité qui s'accommode fort bien des difficultés d'exécution de certaines sonates. Cette virtuosité est maîtrisée dans cet enregistrement, tant elle lui est naturelle, ainsi que le goût dont il a fait preuve dans ses choix d'interprétation. Voilà les raisons pour lesquelles cette version, malgré le passage du temps, elle a été enregistrée en 84-85, garde mes faveurs. La sonate numéro 3 en la mineur est une sonate de forme binaire, j'y reviendrai, c'est-à-dire en deux parties et symétriques. Chaque partie est jouée deux fois. On appelle cela une reprise. Si vous prêtez attention, vous entendrez que le début de la deuxième partie est très semblable au début de la première partie. La deuxième partie commence une tierce au-dessus de la première, mais la trame mélodique est la même, même si dans le développement il y a ensuite de sensibles différences.